Alors, Danny, je commence avec la nouvelle la plus récente avant le match de ce soir.
T'en prie.
Les Prédateurs de Nashville ont confirmé
bye bye, Pete.
Le congédiement de Pete Laviolette.
Ouais.
Laviolette était là depuis un bout, 2014.
2014,
oui. Il était derrière le banc de cette équipe. 5 ans, donc. On lui a laissé tout le temps voulu, mais là, cette année, là, les Prédateurs de Nashville, ça glisse sérieusement. C'est une équipe qui a été bâtie pour gagner, la Coupe, l'arrivée de Matt Duchene et tout ça. On échange Piqué-Souban pour pouvoir donner l'argent nécessaire à Duchene. On l'amène dans l'équipe et ça fonctionne pas,
Ça
fonctionne pas. Et là, ben, les Prédateurs de Nashville, avant les matchs de ce soir, étaient 6e de la division centrale. Ils sont pas tellement loin des Jets de Winnipeg, qui sont 4e. Ils ont 2 points sur les Jets, mais ils ont pris un retard considérable sur le top 3. Dallas à 52 points, Colorado 54 et Saint-Louis 59. C'est là où le directeur général David Poile a dit « Oh, là, mon équipe a presque 10 points de retard. »
Il y a 2 semaines, M. Poile a dit qu'il regardait la possibilité de faire des transactions.
Vote de confiance pour l'entraîneur.
Vote de confiance pour l'entraîneur, etc. 2 semaines plus tard, à peine, l'entraîneur est congédié.
Bien là, il y a eu le match à l'extérieur contre les Stars de Dallas qui a été vraiment moche pour les Prédateurs et la défaite contre les Ducks après.
Oui, exactement. Puis écoute, c'est une équipe qui ne réussit pas à se mettre en marche. Elle a des bons et des moins bons moments. Mais c'est un peu à l'image de leur leadership. Moi, je pense qu'en attaque, il y a plusieurs situations précaires à... Je pense pas qu'on est très content de Duchene. Je pense que Johansson, c'est toujours la même affaire. C'est mi-figue, mi-raisin.
Tellement de haut et de bas. Hein.
C'est ça. C'est pas un joueur très intense. Cette équipe avait quelque chose que lorsqu'ils ont laissé aller Bonino aussi, ça aussi, c'est un gars qu'ils ont pas remplacé.
Ça, c'est l'année où ils sont allés en finale.
En finale. C'est ça. Écoute, ce joueur-là, c'est un gars qu'on n'a pas été en mesure de remplacer.
C'est vrai.
Il y a quelques petites pièces comme ça du casse-tête qu'on n'a pas réussi à remplacer. Et évidemment, tout ça, c'est une dynamique en plus, là, le groupe, dynamique de groupe. Leur gardien de but numéro 1 vieillit. On donne de plus en plus de responsabilités au jeune Saros, là, de gardien de but numéro 2. Mais je pense qu'on arrive dans une situation, on est un peu dans un cul-de-sac avec les Prédateurs de Nashville. Je pense qu'on a eu le meilleur de ce groupe-là lorsqu'ils sont allés en finale de la Coupe Stanley contre les Pingouins, là où ils l'ont perdu.
Oui, et on a hâte de voir parce que le nom du successeur n'est pas annoncé encore. Alors ça voudrait peut-être dire que les Prédateurs iront à l'extérieur de l'organisation.
Oui.
Parce que si c'était un adjoint de Laviolette, il serait déjà nommé. D'ailleurs, le premier adjoint a perdu son poste également, Kevin McCarthy.
Ben, Kevin McCarthy et Pete Laviolette, c'est dans la même phrase.
C'est une association.
C'est ça. Ils étaient ensemble.
C'est comme Barry Trotz puis Lane Lambert.
C'est ça. Ils étaient ensemble déjà en Caroline. Alors, ces gars-là travaillaient ensemble avec les Flyers. Ils étaient partout ensemble. Ça fait que...
Parlant de Lambert, peux-tu recevoir un coup de fil?
Il pourrait. J'en sais
il
trop
connaît rien. L'organisation de fond en comble.
Il connaît bien l'organisation. Moi, je pense que ça retarde parce qu'on veut, comme tu le mentionnais, on veut quelqu'un qui a de l'expérience. Il y a peut-être des négociations aussi avec des organisations parce que c'est peut-être des entraîneurs adjoints.
Ils jouent mercredi,
qui ont de l'expérience ailleurs, qui ont de l'expérience, mais qu'on doit avoir une autorisation pour leur parler. Ça peut être une partie de l'équation.
Ouais.
L'autre, c'est que on se donne du temps parce que, justement, on a à se déplacer pour aller rencontrer des candidats qui sont peut-être
aussi
en périphérie. Là, donc, alors, moi aussi, je suis un peu curieux de voir quel choix sera celui de M. Poile.
Voilà. On va aller du côté des rumeurs, Danny, puisque nous sommes à un mois et 2 semaines de la date limite des échanges dans la LNH et les rumeurs tournent autour des Sénateurs d'Ottawa et de Jean-Gabriel Pageau.
Ah oui.
Jean-Gabriel Pageau connaît la saison de sa carrière.
Mm-hmm.
Il est agent libre sans restriction le 1er juillet prochain. Il est en fin de contrat. C'est un contrat qui lui rapporte actuellement 3,1 millions de dollars. Moi, je ne peux pas croire que les Sénateurs vont laisser partir Jean-Gabriel Pageau. C'est un petit gars de l'Outaouais, c'est un petit gars de Gatineau. Il faut qu'il reste dans l'organisation. Il est dans le meilleur de sa carrière après avoir connu une grave blessure l'année passée. Il fait un retour en force.
Wow.
Et là, écoute, c'est sûr qu'il y a des preneurs, là, avec la saison qu'il connaît. L'un des meilleurs, tu le disais, au niveau des plus et des moins dans la Ligue nationale. Il a 30 points en 42 parties. Il y a 6 équipes qui seraient intéressées au service de Jean-Gabriel Pageaud. On parle de l'Avalanche du Colorado. On parle également des Oilers d'Edmonton, des Jets de Winnipeg, des Flames de Calgary, des Penguins de Pittsburgh et même des Bruins de Boston qui sont super bien nantis à la position de centre et qui regardent la possibilité de faire l'acquisition de Pageaud. Et moi, j'ai pas de misère à croire qu'il va y avoir d'autres équipes qui vont être intéressées à un gars comme Pageaud, parce que quand tu es bien nanti, je pense à l'Avalanche, là.
Oui.
Quand tu es un bon premier centre en McKinnon, tu as un bon 1-2 punch, ce que ça te prend, là, c'est un troisième centre pour jouer du hockey serré, pour surveiller les meilleures lignes adverses, pour jouer du hockey de série. Et ça, Pageaud serait dans l'environnement idéal.
Oui. Faut que tu regardes les équipes, Martin, qui ont des difficultés en désavantage numérique. Je regarde les
aussi.
Jets, là. Je veux dire une chose. Amène-le avec les Jets, lui.
C'est clair.
Il est merveilleux. C'est parfait. Il
derrière fit. Wheeler, derrière Scheifele.
C'est en plein ça. Numéro 3, là. Numéro 1, en plus, en désavantage numérique, c'est une des pires équipes de la Ligue. Alors, lui, il amènerait une dimension extrêmement précieuse, là, sur les unités spéciales. En plus, il est capable de jouer en avantage numérique. C'est vraiment un joueur complet, là.
Absolument.
Et donc, ça demeure un joueur de location pour l'instant.
Oui.
Et donc, ça prend une équipe qui a quelque chose à donner. Les Jets font partie de ces équipes-là.
Et les Sénateurs veulent des jeunes.
Oui.
Qui sont préférablement sur des contrats d'entrée.
C'est ça.
Qui ne coûtent pas cher. Alors, c'est à suivre. Il y a un autre joueur dont on va entendre le nom de plus en plus au cours des prochains jours. C'est Chris Kreider des Rangers de New York. Mm-hmm. Ne vous en faites pas, il s'en vient pas à Montréal. Parce que le collègue Larry Brooks de New York, qui suit les activités des Rangers depuis 132 ans, mm-hmm. A écrit dans sa chronique que Kreider a 11 équipes. Il a inscrit le nom de 11 équipes en restriction sur son contrat pour une clause non-échange. Et selon Brooks, les 7 équipes canadiennes font partie des 11 dans lesquelles Chris Kreider ne veut pas aller. Mm-hmm. Il a même dit, Larry Brooks, que le Canadien se serait informé de Chris Kreider il y a de ça quelques semaines. Mm-hmm. Et comme le nom du Canadien de Montréal apparaît dans la liste, là, semble-t-il que c'est une fin de non-recevoir. Du moins, c'est ce que dit Larry Brooks, là, que le Canadien aurait pris des informations sur la disponibilité de Chris Kreider. Mm-hmm. Chris Kreider, Danny, c'est un gars qui termine un contrat de 4,6 millions de dollars annuellement.
Oui.
Lui aussi, ça peut être un bon joueur de location en série. Il peut amener quelque chose.
Oh, oui, c'est un
On
gros...
On l'est pas à Montréal, là, mais,
non, mais, c'est, un
mais
gros...
c'est un bon joueur.
C'est un bon joueur. C'est un gros gars. C'est un gars qui amène une dimension quand même intéressante au niveau de
filet,
l'habilité,
hein?
Habilité à marquer en espace restreint.
Oui.
Dérange les gardiens,
oui.
Dérange les défenseurs.
Oui.
S'il décide qu'il joue, là, parce qu'il n'est pas toujours au rendez-vous là, tous
non.
les soirs. Là. Des fois, la cloche
ne sonne
pas. Là. Il reste dans la cour d'école. Là. Il ne rentre pas pour... pas pour les devoirs. Mais écoute, quand il est au rendez-vous, comme je le disais, c'est un très bon joueur.
Et Danny, les Rangers sont en mouvance un petit peu, là, parce que là, on a finalement rappelé leur jeune gardien extrêmement prometteur pour le prochain match. Il s'appelle Igor Shesterkin. Shesterkin évoluait dans leur club école dans la Ligue américaine à Hartford. C'est un jeune homme qui a été repêché en quatrième ronde en 2014. Mm-hmm. Il avait la meilleure fiche de tous les gardiens de la Ligue américaine. 9,32 pourcentage d'efficacité, premier dans ce domaine. 1,9 moyenne de buts alloués, premier également dans ce domaine.
Parle-moi
15 victoires. Il a seulement perdu 4 matchs en temps régulier. À un moment donné, là, lui et Caden Primo étaient dans le top des gardiens de la Ligue américaine. Là, on commence. Georgiev est complètement laissé de côté et c'est Longvist qui va être son second demain. Là, les Rangers font vraiment de la place aux jeunes.
Ben oui, écoute, on est vraiment là dans le tournant et on le voit là, chez les Rangers. Puis il faut donner l'équipe à des nouveaux visages, c'est clair.
Absolument.